www.radio-g.fr.
www.radio-g.fr.
Résonance, le lundi à 20h sur Radio G, présenté par Marina Dou.
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, un moment rien que pour vous et avec nous. C'est Résonance, l'élégance musicale, l'art du métissage. Des vibrations qui nous touchent, traversent notre chair, notre être, au-delà de nos différences. Alors, soyez prêts pour ce voyage, car c'est avec Vidala que nous partons ce soir. Un univers poétique, humaniste, fraternel, où les émotions nous traversent, c'est Vidala. Avec sensualité, talent, authenticité, ils mettent à l'honneur le répertoire musical sud-américain, une histoire qui retrace les luttes, les résiliences, les espérances d'un monde meilleur. Christophe, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans Résonance.
Eh ben, c'est un plaisir de participer à votre émission.
Alors, on vous retrouve ce soir pour parler de votre musique, et notamment du groupe Vidala, un ensemble de musique latino-américaine qui réunit quatre musiciens et musiciennes, dont vous, Christophe Jacques, aux guitares, à vos côtés Séverine Soulaïres, au chant et aux guitares, Raphaël Frémébac et Baptiste Romano, aux percussions et chœurs. Une musique venue de loin qui vous réunit au nom de la passion, mais aussi qui vous réunit autour d'une certaine façon de vibrer, de vivre la musique. Alors la musique latino, c'est bien plus qu'une façon de jouer pour vous?
Oui, tout à fait. En fait, surtout le répertoire qu'on aborde, c'est un répertoire qui est issu des protest songs en fait sud-américaines qui ont été développées dans les années 60, 70 et 80. Alors d'abord, dans un premier temps, sous forme de collectage pour se réapproprier le folklore de chaque pays, avec la musique traditionnelle, et puis après qui sont devenus des supports pour des chansons contestataires au moment où il y a eu les dictatures, et un peu avant aussi au moment où il y a eu des grands mouvements sociaux. Tous ces auteurs-compositeurs et autrices-compositrices aussi ont été un peu les porte-parole de ces mouvements sociaux. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas une chanson anodine, on va dire. C'est pas même si c'est joyeux, si c'est enjoué, on va dire, au niveau des rythmes et de la musique, ça reste quand même des textes assez sérieux, mais des textes qui sont pas désespérés, au contraire des textes qui sont plutôt combatifs. Voilà.
Et vous personnellement, qu'est-ce qui vous a amené vers ces musiques?
Alors, d'abord, quand on a monté cette formation, moi j'ai rencontré Séverine dans un label indépendant que j'ai créé en 1992 avec trois amis, et elle était dans un groupe de musique du monde, musique rock, un groupe féminin, musique rock métissée, plutôt Afrique de l'Ouest, mais elle était déjà, elle me parlait dans ses projets de monter un répertoire sud-américain, parce que elle, dans sa famille, ils avaient hébergé beaucoup de Chiliens, elle connaissait beaucoup cette musique, en fait, parce qu'elle l'a entendue depuis tout petite. Voilà, moi j'ai une formation de musicien classique, dans les années 80, je suis rentré dans une masterclass d'un professeur de guitare argentin du Conservatoire de Madrid pour étudier la musique populaire sud-américaine, parce que ça m'intéressait un peu de connaître cette musique-là. Raphaël, elle était professeure au Conservatoire de Lyon, donc elle est spécialiste dans les percussions afro-cubaines et le chant afro-cubain. Là, elle est en disponibilité depuis 5 ans pour suivre notre projet, parce qu'on a quand même pas mal de concerts. Et puis, ben, Baptiste Romano, c'est un musicien qui était très intéressé par la musique afro-cubaine aussi et qui jouait déjà avec Raphaël. Donc voilà, on s'est réunis sur cette base-là, donc juste avant le Covid, malheureusement. Et ben, le fait d'être confiné nous a permis de nous retrouver tous ensemble et de tous les quatre et de faire le premier album qu'on a fait à quatre, Cantando al Sol. Sachant que dans la période avant cette réunion de nous quatre, on avait un trio qui s'appelait Vidala avec donc une autre musicienne qui a été complètement perturbée par ce qui s'est passé avec le Covid et qui, devant l'insécurité qui se présentait, a arrêté la musique. Voilà.
D'accord. Alors vous avez tous dans le groupe une appétence pour la Nueva Canción.
Bah oui, et pas que, aussi, bon, j'écoute beaucoup de musique brésilienne, Baptiste Simon joue aussi, mais j'écoute aussi plein d'autres musiques, enfin c'est des musiques du monde, quoi.
Et la Nueva Canción, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Qu'est-ce qui la caractérise?
Alors, la Nueva Canción, justement, c'est ça qui est très intéressant pour nous. Globalement, tous les quatre, on est vraiment tombés un peu... en amour, comme diraient les Québécois, avec cette chanson, parce que c'est une chanson dont les textes sont un peu intemporels, d'ailleurs. Tous les sujets qui sont abordés dedans, on pourrait dire qu'ils sont quasiment contemporains encore aujourd'hui, ils ressortent régulièrement, hein. C'est des sujets qui parlent de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, des droits des peuples, de l'environnement... du partage des terres, du système financier, etc. Et surtout de la liberté aussi. Alors, c'est très à la mode en ce moment de dire la liberté d'expression, mais là, c'est vrai que cette chanson qui a été beaucoup utilisée pendant les dictatures, là, pour le coup, la liberté d'expression, c'est pas un pis-aller, quoi. Et donc, c'est ça qui nous a beaucoup plu. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est que musicalement, c'est très, très riche. Parce que il se trouve que la musique sud-américaine est une des musiques les plus métissées au monde, parce qu'il y a trois héritages dedans. Il y a cet héritage qui vient des conquistadors, donc de la musique baroque espagnole, et puis il y a l'héritage des indigènes, des Indiens, hein, des Quechua, de tous les Indiens. Et donc ça, c'est un apport avec les gammes pentatoniques, avec des mélodies très spécifiques. Et puis, bah, l'héritage des afro-descendants, c'est-à-dire les descendants des esclaves, qui vraiment est chargé de rythmes africains et de mélodies africaines. Et ça, déjà, ça nous a vraiment tous réunis, parce que cette richesse-là, on la trouve quasiment nulle part ailleurs, quoi. Voilà, et puis voilà, puis c'est vrai que chacun de notre côté, on a amené un peu notre patte à nous à travers cette musique, parce que c'est une musique qui est très ouverte, hein. C'est une musique qui est encore très jouée aujourd'hui, sans parler des grandes manifestations qu'il y a au Chili ou en Argentine ou au Brésil, etc. On entend régulièrement les manifestants chanter ces chansons-là. C'est voilà. Ça fait vraiment partie de leur vie. Et moi, je trouve ça tout à fait actuel. Voilà.
Alors, en France, vous reprenez ces folklores et vous les arrangez. Est-ce que pour vous, le contact avec les locaux est important dans cette quête, cette recherche d'authenticité?
Ah, bah, complètement. Alors, donc, déjà, nous, on travaille beaucoup avec des Sud-Américains. Hein. Moi, je travaille avec des Sud-Américains depuis 1983, en fait. Donc j'ai eu le temps de bien m'immerger dans la question. Baptiste et Raph ont beaucoup bossé à Cuba, donc ils ont beaucoup travaillé à Cuba. Et Raph plus en Argentine aussi. Alors Séverine, elle n'est pas encore allée en Amérique du Sud, mais elle a fait déjà plein de duos de compositions avec des musiciens sud-américains qui vivent ici. Et il se trouve que là, on travaille avec des musiciens qui sont au Pérou et en Colombie. Et bon, alors pour l'instant, on a réussi à les faire venir à Lyon, hein, parce qu'on est basé à côté de Lyon, sur Lyon. On avait réussi à venir faire venir à Lyon l'année dernière à l'Opéra de Lyon où on avait une carte blanche pendant une semaine, l'Opéra Underground. Et donc, on a commencé tout un travail avec eux pour faire un spectacle ensemble qu'on fera tourner en France. qui s'appellera Herencias, donc héritage, et qui va parler un peu de tout ça. Voilà. Et donc, oui, on échange beaucoup. Alors, même, c'est génial parce que Internet, ça permet ça, hein, que les distances sont immenses, mais l'information qui passe peut être immense. Et donc, on arrive quand même à travailler avec ça. Et puis, on essaye de se voir de temps en temps, etc., pour caler des choses. Là, Sébrine et moi, on a fait un concert avec un chanteur, guitariste chilien, il y a 10 jours, puisque c'était l'anniversaire du coup d'État au Chili et de la mort de Víctor Jara. Et là, on va faire un concert avec un chanteur hondurien aussi. On fera l'auditorium de Villefranche en décembre, le 5 et le 6 décembre, 2 jours, avec des musiciens de jazz aussi qui vont nous accompagner. Et on est en train vraiment de travailler sur des choses très spécifiques qui viennent vraiment de régions particulières, etc. Et que, évidemment, nous, on réinvente un petit peu, quoi. Voilà.
Est-ce que vous voyez des différences dans l'approche musicale de la part des locaux et de votre part?
Ah, mais c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que, en fait, là-bas, en Amérique du Sud, la musique fait quand même vraiment partie de la vie de tous les jours dans la société. C'est-à-dire que la musique, on l'apprend d'abord en famille, on chante. Si on a un père qui joue de la guitare, on apprend la guitare, ou de l'accordéon, on apprend l'accordéon, etc. On chante, on danse. Et puis, tout ça se fait comme ça tout au long de notre enfance, de l'enfance des gens. Et puis, le samedi soir, on va dans les peñas, qui sont vraiment au bout des petites rues. Et là, c'est tous les voisins qui sortent, qui mettent tout en commun, qui jouent beaucoup. Et une fois que tout le monde sait jouer de la musique, là, ceux qui décident de devenir musicien, ils disent « je vais aller à l'école de musique ». Mais ils savent déjà jouer la musique. Là, c'est juste pour apprendre à lire et à écrire, mais ils ont pas besoin de ça pour en jouer, mais disons que là, c'est pour vraiment parfaire leur connaissance et devenir un musicien professionnel. Nous, on n'a pas du tout cette démarche-là. Parce que nous, on a une possibilité vraiment incroyable, d'ailleurs, sur notre territoire, c'est d'avoir, je sais pas, 3500 conservatoires. Donc, un maillage éducatif pour la musique qui fait que la musique, elle est très peu, elle est prise comme une activité. Elle est très peu, à part pour ceux qui vont se professionnaliser, bien sûr. Mais elle est plutôt prise comme une activité, comme du mercredi ou du samedi, ou parce que faut faire un peu de musique, etc. Et c'est dommage parce que c'est beaucoup moins. Peut-être qu'avant c'était un peu pratiqué en famille dans certaines régions, notamment par exemple en Bretagne où là c'est encore bien vivace. J'ai eu l'occasion d'étudier ça, même de travailler avec des musiciens bretons pour voir un peu comment ça se passait chez eux. Et c'est vrai que on a perdu ça. Nous, on est plutôt dans une société de consommation musicale. On est très peu acteurs. Voilà la différence vraiment fondamentale que je vois entre les Sud-Américains et nous.
Exactement. Peut-être qu'un jour, voilà, ça va évoluer dans ce sens-là. On l'espère en tout cas.
Mais bien sûr.
Toujours avec nous et pour vous dans Résonance sur Radio G avec le groupe Vidala. Vidala, c'est le nom de votre groupe, un nom peu commun. Est-ce qu'il y a une signification particulière ?
Oui, la vidala, c'est une forme musicale argentine qui vient des plateaux andins et qui désigne le chant intérieur. C'est-à-dire que, en gros, c'est une forme musicale qui, en général, est assez lente, qui rappelle beaucoup le blues, parce que c'est la forme musicale qui chante les grands espaces intérieurs et les grands espaces extérieurs, la Pachamama, et les gens dans ces plateaux ondins, c'est souvent des bergers ou des gens qui vivent seuls, des agriculteurs dans des toutes petites exploitations. Ils sont vraiment très seuls au milieu de la nature, c'est une nature quand même assez hostile et difficile à vivre. Et donc c'est le chant de ces personnes-là. Par exemple, il y a une chanson de Atahualpa Yupanqui. qui dit, ça s'appelle Vidala pour mon ombre, donc la Vidala, cette forme musicale, ce chant pour mon ombre, il dit, parfois tu es devant moi, parfois tu me suis, mais qui va prendre soin de toi, ma petite ombre, le jour où je serai mort? Voilà. C'est typique de cette espèce d'imaginaire, et la Vidala, c'est vraiment ça, quoi. Ça ressemble vraiment beaucoup, beaucoup au blues qu'on trouve dans le nord des États-Unis.
Donc un peu de nostalgie, c'est ça, dans les textes?
C'est pas que c'est nostalgique, c'est que c'est un peu l'être humain tellement petit face à la nature implacable qu'on est là, on est au milieu, on en fait partie comme un tout, et on est là, on se situe dedans, et voilà, on avance comme on peut.
On va revenir sur votre dernière création, l'album Una Historia Americana, La Rose qui pleure, 18 chansons qui nous plongent dans des profondeurs sensibles du répertoire sud-américain. Qu'est-ce qui représente pour vous cet album ?
Alors, cet album, c'était un peu... nous, on a fait 3 albums avec Vidala, dont celui-là, donc qui est le dernier. Et c'était un peu notre manière à nous, parce qu'on a, tous les musiciens sud-américains qu'on connaît, avec qui on travaille, nous ont dit... Bon, vous avez une particularité, c'est que quelquefois, souvent, même très souvent, vous dépoussiérez complètement des chansons qui sont vieilles des années 60 et vous les rendez tellement actuelles que, en fait, on trouve ça super bien. Et ce qu'on se disait, c'est que on entend souvent parler de ces chansons, mais on ne connaît pas vraiment l'histoire de l'Amérique du Sud. En fait, c'est étudié un peu à l'école, tout ça, etc. Nous, on n'a pas vocation d'être pédagogique, mais ce qu'on se disait, que ce serait pas mal de faire une espèce d'histoire, mais à travers des chansons, à travers des auteurs, à travers les textes. Et donc, de faire un cheminement, justement, où on montre ce métissage, où, parce que dans cet album, il y a de la musique baroque espagnole, il y a la musique mexicaine, chilienne, argentine, péruvienne, colombienne. Il y a vraiment plein de choses. Il y a même de la musique brésilienne. Hein. Siembra, c'est une chanson brésilienne, mais qui a été traduite en espagnol. Voilà. Et pour nous, c'était de donner notre participation, en tout cas pour faire connaître aux gens ici, en France. Donc là, c'est pas du tout en direction des locaux. Une autre histoire de l'Amérique du Sud, celle autre que on voit dans les livres et tout ça, mais de ce qui serait pas l'histoire de l'Amérique du Sud, c'est un truc tout à fait complémentaire à travers des auteurs, surtout à travers les auteurs qu'on a choisis et à travers ces textes, de voir cette histoire-là, surtout cette histoire, hein. Bon, c'est très concentré sur les années 60-70, mais nous, on est remonté jusqu'au XVIIe siècle, voilà. Bon, dans notre spectacle aussi, on prend des chansons de Cuba qui viennent du XIXe siècle, voilà. Et cet album, il est vraiment lié à ce spectacle, Una Historia Americana, qui est un spectacle qui se déroule avec un immense écran derrière. Avec on a travaillé avec une plasticienne qui nous a fait des peintures, qui a fait des documentaires aussi, qui est allée sur place pour les faire, qui a rencontré Patricio Guzman, qui nous a donné le droit d'exploiter certains de ses documentaires ou de ses films. Et les deux, le spectacle et l'album, sont vraiment liés. Et c'est vrai que quand on joue le spectacle, on joue exactement l'ordre de l'album, parce que c'est rythmé par toute cette vidéo qui est derrière. En général, on sent là que vraiment c'est assez puissant. Et voilà. Donc pour nous, c'était l'aboutissement d'Una Historia Americana. Donc c'est notre histoire à nous, comme on la vit de l'Amérique du Sud, mais qui montre une autre histoire à travers des auteurs. Et ça. C'est la fin d'une phase pour nous. Maintenant, on va rentrer dans une autre phase. Le prochain spectacle s'appelle Un héritage. Il va être vraiment constitué, vraiment fait avec des locaux, notamment sur place là-bas, puisqu'on va partir au Pérou, en Équateur et en Colombie, d'abord dans un premier temps, pour un mois et demi, pour travailler sur place, faire du collectage. Bon, c'est avec des gens avec qui on travaille là-bas. Et ensuite, on va ramener tout ça en France. Donc, pour le faire tourner en France avec eux si possible. Et donc, en fait, ce projet Una Historia Americana, c'est pour nous, c'est la fin d'un cycle, quoi.
C'est d'accord. Vraiment,
voilà. Et c'est la fin d'un cycle par rapport à notre approche de l'histoire de la musique sud-américaine. Okay. Là, on est bien imprégné, on est bien rentré dedans. Ça nous a permis de pouvoir faire des arrangements super originaux, voire très modernes, etc. On a bien été surveillés par nos pairs, parce qu'on travaille avec un écrivain argentin qui s'appelle Eduardo Berti, qui est assez connu, qui signe chez Gallimard. On travaille avec un poète chilien aussi, Patricio Sanchez. Ils sont en France, ces deux personnes. Puis on travaille avec des universitaires aussi, donc à l'ENS de Lyon, à la Fac de Lyon 2. Et là, on va travailler avec Alina Santa Cruz, la petite fille de Victoria Santa Cruz, la grande poétesse afro-péruvienne, qui Alina, elle est prof à l'université de Cherbourg. Donc on commence ce travail sur héritage, quoi, qui va être de plonger vos racines de ça et de ça, d'approfondir vraiment ce métissage.
Alors avant de vous retrouver avec le projet Héritage, on va s'écouter ensemble un extrait de la chanson Gracias a la vida de Violeta Parra, interprétée par votre groupe Vidala.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los luceros que cuando los abro perfecto distingo.
Alors, c'est une chanson très connue dans le répertoire latino-américain. Quel message, quel message ressort de cette chanson?
Alors, Violeta Parra, déjà, c'est vraiment, elle s'est suicidée juste quelques mois avant qu'il y ait le grand rassemblement de musique de Canción de Protesta, de musique de chansons de protestation, qui s'est passé à Cuba, et où on a mis un nom sur cette nouvelle chanson qui s'appelle Nueva Canción, donc voilà, on l'a nommée comme ça. Mais elle, c'est vraiment une précurseur de ce mouvement-là avec Atahualpa Yupanqui, parce que c'est une femme qui était une artiste absolument complète, hein, peintre, tapissière, musicienne, auteure, compositrice, danseuse, qui a exposé d'ailleurs à Paris, au Louvre, qui a exposé, qui a beaucoup travaillé en France aussi, et surtout elle a passé une grande partie de sa vie à parcourir son pays avec ses enfants et son magnétophone, et elle a fait un collectage énorme de tout ce qui est musique, mais aussi recettes de cuisine, tout ce qui était imaginable et possible. Pourquoi ? Parce qu'elle vivait dans un pays, donc le Chili, où qui était où la majeure partie de la population vit dans une tradition orale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup il y avait beaucoup d'illettrés, et dans les campagnes reculées où elle est allée chercher toutes ces choses, en fait, la personne dépositaire d'un savoir, comme par exemple une chanson ou une mélodie, le jour où elle meurt, si personne l'a appris, elle disparaît. Donc, voilà, c'est juste pour situer le personnage de Violeta Parra. Et Violeta Parra, elle a répertorié 1500 vers et chansons, qu'elle a ensuite enregistré, consigné, etc. Ça fait partie aujourd'hui du patrimoine du Chili. Et donc, dans cette chanson, Violeta Parra, qui était une femme vraiment assez extraordinaire, qui a parcouru son pays avec ses enfants, en plus en bas âge et tout, qui sont tous devenus musiciens, hein, Isabel Parra, Angel Parra, bon, peut-être non, pas l'aîné qui est poète, mais Nicodore. Disons que dans cette chanson, elle dit merci à la vie parce que elle a vécu un terrible chagrin d'amour avec un cinéaste suisse avec lequel elle s'était mis en couple et qui était venu en Amérique du Sud pour apprendre la musique et qui a joué donc avec un groupe, tout ça, là-bas, au Chili et en Bolivie, notamment beaucoup en Bolivie. Et lors de leur séparation, elle a très mal vécu ça. Mais dans cette chanson, elle l'a écrit juste avant de se suicider, en fait. Elle a choisi de, malgré sa peine, de garder cette chose positive, quoi. De dire, ouais, mais la vie m'a offert tout ça.
Un message de résilience, alors.
Voilà.
Alors, en tant qu'artiste, vous avez une certaine sensibilité. Est-ce qu'il y a des valeurs, des choses que vous souhaitez transmettre à votre public ?
Bien sûr. En fait, d'abord, nous, en général, après nos concerts, on voit que les gens, ils peuvent être assez émus sur certaines choses, notamment sur certaines chansons. On l'a vu beaucoup avec des Sud-Américains aussi qui étaient très émus, mais tout coupant, on va dire. Donc nous, ce qu'on essaie de faire passer, c'est que toutes les chansons qu'on joue et qu'on enregistre là aussi, c'est quand même des chansons qui parlent de valeurs qui nous concernent beaucoup, hein, liberté, égalité, fraternité. Principalement, c'est ça. C'est puisque et donc nous, ce qu'on essaie de dire aux gens, c'est on peut pas vivre désunis comme ça. Il faut qu'on soit un peu comme les brindilles d'un fagot, quoi. Si on est des brindilles tout seul, on est balayé. Mais si on est des brindilles tous ensemble, donc c'est nous, pour une société de solidarité, vraiment, et de bienveillance, les uns envers les autres, on sera solide comme un fagot. Voilà. Et on casse pas. Voilà. C'est un peu utopique, mais je pense que en tant que musicien, artiste, ou je pense que tous les gens, en fait, on fait avec les armes qu'on a. Nous, notre arme, c'est qui n'est pas vraiment une arme. Mais disons que c'est les moyens qu'on a. Bah, nous, les moyens qu'on a, c'est de diffuser de la musique qui rassemble plutôt les gens qu'elle ne les divise. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci Christophe d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous retrouve sur toutes les plateformes avec l'album Una Historia Americana, La Rose qui pleure.
Voilà. Eh ben merci Marine, et puis bon voyage aux auditeurs qui écouteront cet album. C'est un voyage.
Résonance est pour vous et avec nous. De l'élégance, de l'émotion, des vibrations. On vous dit à bientôt.